plus, retrouvez tout de suite l'équipe de la demi-heure sport.
Bonsoir à tous, il est 19h23, je suis ravi de vous retrouver sur la demi-heure sport. Il est et on est parti pour un nouveau numéro de la demi-heure sport. L'émission est réalisée par Cyril. Comment ça va, Cyril?
Ça va bien, merci. Toi aussi?
Bah écoute, impeccable, bon, super. Ce soir, on va parler de course à pied, de running. Nous recevons un immense champion, c'est Yoann Durand qui est avec nous. Athlète de haut niveau, entraîneur, consultant de running sur RMC. Il a gagné ce week-end. C'est un compétiteur, c'est un passionné. Il transmet un petit peu son expérience sur les terrains et dans les médias. Performance mentale, transmission sur l'avenir du running. On va en parler avec lui ce soir. Merci Yoann d'être avec nous.
Merci pour l'invitation. Très heureux de vous retrouver ce soir, d'être avec vous.
Et ouais, t'étais déjà venu une fois, mais t'étais du coup...
Là, j'étais en distanciel.
Distanciel.
J'avais pas eu la chance de venir vous voir à Ribérac.
Exactement, et je crois qu'à l'époque, t'étais à Font-Romeu, en préparation,
c'est possible, ouais.
Il me semble.
J'étais en prépa, ouais. J'y passe beaucoup de temps à Font-Romeu, c'est ma deuxième maison.
Voilà. Du coup, ce week-end, victoire pour toi, Yoann.
Oui.
Après, en plus, je crois, un retour à la compétition.
Ouais, il y avait longtemps que j'avais pas accroché de dossard en mode compétition ce week-end. C'était un peu la rentrée. C'était pas la plus facile parce que voilà, c'était les crosses et effectivement, mon dernier cross remontait au championnat de France de cross en mars, presque 10 mois avant.
Où tu as été champion de France.
J'avais été champion de France de la catégorie master et l'objectif c'est de l'être de nouveau en mars prochain. Donc voilà, très content de raccrocher des dossards et puis surtout de la façon dont ça s'est passé puisque j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu dans un parcours assez compliqué, assez boueux. Donc c'est jamais évident quand t'as pas accroché de dossard et que t'as pas fait de séance vraiment rythmée de repartir de l'avant comme ça. Donc content d'avoir pu gagner, ouais.
Et tu étais, si je dis pas de bêtises, face au bréviste Sacha.
Oui,
j'ai perdu.
Perrier. Sacha
Perrier. À 8 secondes.
Ouais, beaucoup de brévistes. Et effectivement, ils se sont accrochés un long moment. Donc, il n'y avait pas de gros écarts. Donc, il a fallu quand même que je maintienne un vrai rythme du début à la fin. Donc voilà, ça a été un vrai cross, une vraie belle bataille. Après, on a les demi-finales des championnats de France le 15 février à Cognac, qui sera une étape supplémentaire. Ça me mettra un dossard de plus. Je pense que ça sera encore de nouveau un parcours assez compliqué parce que pareil, on m'a dit que c'était un hippodrome et que s'il pleuvait, ça risquait d'être sale. Et après, les championnats de France en Bretagne à Carré le 8 mars.
C'est vrai que les conditions étaient quand même plutôt compliquées là, ce week-end.
Ce week-end, c'était assez compliqué. Mais bon, après, on y va pour ça aussi. C'est le fait de faire les crosses, c'est aussi on va chercher cette difficulté-là. C'est-à-dire que, effectivement, si j'avais voulu rester au sec, j'aurais fait de la salle ou de la route et c'est un peu moins compliqué. Le cross, on oublie le chrono, c'est de la lutte homme à homme, c'est dans la boue, il fait froid, t'as des pointes de 15, tu glisses. Tu perds ta chaussure, il pleut, c'est toujours très compliqué. Mais tu y vas pour cette expérience-là parce que je trouve qu'elle t'endurcit. Moi, je sais que quand j'ai tendance un peu à pas me reposer sur mes lauriers, mais à courir un peu dans la facilité, quand il fait froid, tu vas courir sur tapis ou des choses comme ça. Ah, ça te remet un peu en selle et tu as besoin de te mettre un petit coup de pied aux fesses et il suffit de participer à un cross pour que ça te rebooste un peu et d'aller chercher justement ce supplément d'âme à travers cette compétition qui est quand même à part. Ouais,
ouais, donc tu dis, donc il y a les spécialistes du cross et toi, tu es quand même un spécialiste de la route. Hein. Mmh. Tu dis que les deux coureurs ne sont pas forcément... Les deux coureurs ne sont pas identiques.
Ouais, ça demande des qualités totalement différentes entre le cross et la route. Hein. Le crossman va être un petit peu, pour grossir le trait, un peu tracteur, c'est-à-dire avec des grosses cuisses, un peu comme peut l'être un trailer, avec des muscles assez lourds pour pouvoir passer dans la boue, pour pouvoir s'extirper. Et il faut qu'il ait une foulée plutôt cadencée, avec beaucoup de rythme et pour pouvoir s'en sortir. Et à l'inverse, le routard, normalement, il a une foulée plutôt aérienne, plutôt longue, avec un rythme de métronome. Il a l'habitude de courir à la même vitesse du premier kilomètre au dernier kilomètre. Et en cross, tu peux pas ça. C'est des relances sans arrêt, des montées, des descentes. Donc il y a des kilos où tu vas vite, des kilos où tu vas moins vite. Des fois, tu tombes dans 100 mètres de boue où tu t'en sors pas et il faut ralentir, faire des petites foulées. Donc c'est de l'adaptation sans arrêt et c'est là où tu vois les coureurs qui sont capables de s'adapter ou pas par rapport au terrain. Et ça, tout le monde n'y arrive pas, ouais.
tu sentais que d'aller être du coup à ce niveau-là, du coup, malgré, enfin, pour ta reprise ?
Non, pas du tout, pas du tout. Je pensais pas être bien comme ça. J'étais bien dès le début. Ouais. Les consignes étaient de justement faire une première partie un peu off. À surveiller, à regarder faire, et donc c'est pour ça que toute la première boucle, voire le premier tiers de la course, je suis 5e, 6e, même des fois je suis derrière, 10 mètres derrière. Et puis après le 3e kilomètre, je me suis dit, allez, ça a l'air de bien répondre, ça va bien, je vais tester un peu, je vais accélérer, parce que je voyais que ça allait. Donc non, j'étais content des sensations parce que comme je disais, j'avais pas mis de dossard depuis quasiment le mois d'avril. Donc généralement, quand c'est comme ça, on manque quand même de rythme et on manque de repères. Donc je suis content d'avoir fait cette course quand même là.
Il y a les premiers commentaires qui tombent. N'hésitez pas si vous avez envie de poser du coup des questions à Johan. Il y a William Lévesque qui dit salut l'équipe et salut Youdu. Donc voilà, est-ce que tu connais bien William Lévesque ?
Bien sûr. Yodu, ça c'est mon surnom, ouais.
D'accord.
Maître Yodu aussi.
Maître voilà. Yodu, ouais. Maître Yodu. J'ai vu aussi Popeye.
Popeye, c'est sur Facebook.
Voilà, ouais.
Ouais.
une question, comment abordes-tu aujourd'hui les compétitions différemment qu'en début de ta carrière ? Est-ce qu'aujourd'hui, et qu'est-ce qui a changé ?
Ah, je pense que tu as quand même beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'expérience, donc tu stresses un petit peu moins pour des trucs, tu stresses pour des trucs un peu différents. Quand tu es jeune, tu peux avoir peur de l'adversité, peur de la course, peur de savoir de comment ça va se passer et avoir ce stress un peu qui t'inhibe quand tu as un grand championnat, un championnat de France ou des trucs comme ça. Et que tu n'as jamais participé au championnat de France, effectivement, tu as ce stress qui se transforme un peu en peur. Et des fois, ça t'annihile complètement et tu perds tes moyens.
Ça t'étanise ?
Ouais, ça peut chez certains athlètes. Moi, ça ne m'est jamais vraiment arrivé, mais je sais que j'ai vu des athlètes qu'on appelle, nous, dans le jargon, des fois, des champions de l'entraînement. C'est-à-dire des mecs te rouster tous les jours à l'entraînement. Mmh. Et le jour où ça compte, le jour où tu accroches le dossard et où tu dois aller chercher ce supplément d'âme,
il n'y a
plus personne. Il y a des athlètes pour qui ça arrive, ils ont ce syndrome là et du coup quand ils se font, généralement ces athlètes là ont besoin d'une aide extérieure pour pouvoir progresser et passer ce palier là. Moi j'ai eu la chance de jamais vraiment l'avoir, mais effectivement quand t'es jeune quand même t'es un peu plus tendu, tu te connais moins, t'as tendance à être un peu tout feu tout flamme, à attaquer dès le début. Par exemple une course comme j'ai faite dimanche, je ne sais pas si j'aurais eu la patience d'attendre 3 km avant de dérouler, de se mettre devant et de mettre mon tempo. Tu vois, peut-être qu'en cas des juniors, quand j'étais jeune, j'avais envie de montrer dès le bout de 100 mètres qui c'était le patron. Tu vois, t'as un peu la fougue de la jeunesse. Donc non, t'apprends avec l'expérience. Et puis c'est d'autant plus vrai sur encore en cross, ça joue pas trop, mais sur le marathon. Le marathon, c'est une discipline tellement à part que le fait de plus t'en cours et plus tu te connais, plus tu connais tes sensations, plus tu connais tes ravitaillements, puisque tu sais quand tu dois prendre, quand tu dois pas prendre, quand t'es bien, quand t'es pas bien, quand tu dois accélérer. Et ça, il n'y a que l'expérience. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'à mon âge, effectivement, je stresse quand même beaucoup moins qu'au début. Ouais.
Alors, du coup, cette part de stress, est-ce qu'aujourd'hui, le plaisir est devenu plus important que la performance ?
Bah ouais, parce que malheureusement, je sais qu'aujourd'hui, là, avec mon âge, la performance de haut niveau ou battre mes records sont devenus presque compliqués. Aujourd'hui, voilà, j'ai 40 ans. Et donc, je focalise plus mon entraînement et ce que je fais sur le côté plaisir plutôt que sur le côté perf, parce que je sais que les sélections en équipe de France, bah, c'est quasiment sûr qu'il n'y en aura plus. Que les podiums au championnat de France élite, c'est quasiment sûr qu'il n'y en aura plus, que les JO, il n'y en aura plus, que tout ça. Donc depuis 2024, j'ai fait un peu une croix sur ça. Et donc maintenant, il a fallu trouver...
Ça a été dur à digérer ?
Ah, les Jeux Olympiques, oui et non. Parce que ça a été dur dans le sens où c'était à Paris et où c'était mon dernier grand défi. Mais après, je me suis vite rendu compte qu'avec la blessure que j'ai connue en 2022, j'étais plus invité. J'avais fait 2h09 au marathon et aujourd'hui, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, il fallait courir 2h06. Et j'ai perdu un an et demi en 2022-2023. Et quand je suis revenu en 2023, j'ai tout de suite vu que ça allait être très compliqué. Donc voilà, j'ai pas espéré, tu vois. J'ai pas, du coup, quand t'espères et qu'au dernier moment, ça passe pas, comme ça a pu m'arriver en 2012 ou en 2016. Pour Londres et Rio, là t'es vraiment déçu. Là c'était à la maison, mais malheureusement j'étais trop loin en termes de chrono, et donc la pilule est passée plus facilement. Ouais.
Est-ce que quand on est athlète comme toi, quand on se dit les JO c'est le Graal pour voilà, c'est ça qu'on va aller chercher, est-ce que comment on fait pour se relever des échecs comme ça?
Bah, je me pose la question de est-ce que je cours pour faire les Jeux Olympiques ou est-ce que je cours parce que j'aime ça ? Et la réponse, c'est la deuxième, c'est je cours parce que j'aime ça. La carotte, effectivement, c'est les JO, c'est ce qui me faisait lever le matin, mais c'est pas la fin en soi. Tu vois, la performance, elle est là, elle doit être là, ça doit être un petit moteur, mais ton vrai moteur pour durer dans le temps, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, je cours encore alors que j'ai commencé en 2000 et que... ça fait 26 ans, c'est parce que le plaisir, il est dans me lever le matin et aller m'entraîner et mettre les baskets et peu importe le résultat. Voilà, c'est ça qui me fait avancer, c'est mon moteur, c'est le plaisir que je prends tous les jours à aller m'entraîner et à essayer de dépasser mes limites du moment. Voilà, je sais que j'ai 40 ans, que je commence à régresser. J'essaye de ne pas régresser, mais voilà, je sais qu'avec l'âge, ça va arriver. J'essaye de régresser le moins possible, mais c'est ça qui me fait avancer. Et je sais que je ne battrai plus mes records, je ne battrai plus les records de France senior. Mais voilà, il y a des records de France de ma catégorie, il y a des championnats de ma catégorie. Voilà, donc il faut que j'assume l'âge que j'ai, et c'est ce qui me fait avancer. Mais c'est surtout le plaisir que j'ai tous les matins à me lever pour courir. Ouais.
C'est dur de prendre l'âge quand on a été athlète au niveau?
Ah ouais, c'est pas... Bah surtout que tu le vois pas passer, en vrai. Ouais. Tout le monde le dit, mais c'est la vérité, c'est dingue. C'est quand t'es jeune et tout, quand on te dit tu vas voir, ça passe super vite, tu te dis oui, bah comme tout. Mais en vrai, ça passe à une vitesse, mais c'est une vitesse grand V, les saisons d'athlée. En plus, moi j'ai eu des saisons un peu galères, des fois avec des blessures qui m'ont fait perdre presque des années. Donc effectivement, c'est... Des fois, c'est... Il faut... ça passe vite, donc il faut l'accepter. Et puis une fois que t'as l'accepté, tu sais, c'est comme un deuil, mais comme voilà, c'est comme une blessure. Ou voilà, une fois que t'es dans l'acceptation, que t'as compris que bah, c'est comme ça que ça se passait, et tu vas t'en relever et trouver des nouveaux challenges et des nouveaux défis, bah tu peux avancer et passer à autre chose. Ouais.
Il y a une question d'Alison qui dit: as-tu une préparation mentale spécifique avant une course?
Non, moi j'ai jamais fait appel à un préparateur mental, et du coup j'ai pas de choses comme ça. Après, j'ai des habitudes effectivement qui sont assez rythmées, assez calées. Et ça, c'est pareil, on revient à la question tout à l'heure sur l'expérience. J'ai ma routine. Ça, chaque athlète doit avoir sa routine. Moi, par exemple, mon échauffement, il démarre une heure avant la course. Alors, la course, elle ne démarre pas à l'échauffement, bien évidemment. Avant, il y a eu du repérage de parcours. Ça peut être repérer le parcours pour le cross. Ça peut être se mentaliser les jours avant la course, comment ça va se passer. Essayer de s'imaginer en train de gagner ou autre. Faire de la préparation un peu mentale comme ça, où tu te visualises en train de réussir ta course. Ça, c'est super important dans les jours d'avant. Que tu laisses rien au hasard, que tu sais que ton dernier repas, tu vas le prendre à 11h30 parce que la course, elle est à 16h30, que tu vas manger ça, ça, ça. Faut essayer de laisser le moins de possible le hasard s'insérer dans ces derniers moments. Et après, effectivement, dans ma routine de la dernière heure, ça va être, je vais écouter de la musique, je vais m'échauffer pendant 20-25 minutes, je vais faire des gammes, je vais me mettre vraiment dans ma bulle. Ça m'arrive souvent de m'échauffer de façon isolée, alors qu'on est par exemple là pour les championnats régionaux dimanche, le club, on avait 6 athlètes qualifiés. Et je me suis échauffé tout seul, tu vois, mais parce que des fois j'ai besoin d'être focus sur moi, dans ma bulle et tout, et de pas discuter. Autant il y a des courses où des fois j'arrive à rester avec les autres, à m'échauffer aux allures des autres et tout ça, et il y a des fois où je sens que j'ai besoin d'être autonome, de courir à la vitesse que je veux, parce que voilà, je fais des fois des échauffements qui sont très progressifs, voire très rythmés. Là, j'ai terminé justement mon échauffement assez rythmé parce que je savais que ça allait être un cross et que le cross, ça te prend vite à la gorge. Et les premiers kilos, déjà, tu as le cardio très haut. Donc, j'ai fait un échauffement assez rythmé. Donc, je l'ai fait solo. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas envie de parler à mes coéquipiers. C'est juste que je sens qu'à ce moment-là, sur cette course-là, j'avais besoin d'être dans ma bulle, de me concentrer sur moi. Et voilà, c'est. Et ça, chaque athlète. On revient tout à l'heure, mais c'est l'expérience et on doit se connaître pour savoir qu'est-ce qui nous correspond. Il y en a qui ont besoin de discuter pour évacuer le stress. Ils ont besoin de parler à tout le monde, de se rassurer, de ne pas penser encore à la course et tout. Alors qu'à l'inverse, moi, j'ai besoin d'être un peu focus par moment, de faire mon échauffement, ma routine. Et puis après, bah, tu discutes sur les autres fois, quoi.
Ouais, mais du coup, ça, tes coéquipiers et le coach, ils sont au courant, ils te connaissent.
Oui, oui,
ils
oui.
savent que ça, les avant de la course, si t'as pas envie de leur parler, ils comprennent direct.
Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est... Non, c'est quelque chose qui est habituel. Mais parce que chacun, on est un sport un peu par équipe, parce qu'il y a un classement par équipe, mais ça reste malgré tout un sport individuel. Malgré tout, c'est ta place qui compte. Et à l'inverse du vélo, où t'es dans une équipe et où t'as des équipiers, t'as un leader, t'as un machin. Donc, où tu as besoin un peu de cohésion. Nous, c'est un peu chacun pour soi. Et voilà, il n'y a pas un travail, un vrai travail d'équipe. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, moi, j'aime bien. Des fois, je me revois au championnat de France avec des écouteurs, alors que j'ai pas de musique. C'est juste que j'ai envie de parler à personne et être dans ma bulle. Ouais. Je mets les écouteurs, comme ça, je fais salut et je dis, j'entends pas. Et ça me permet d'être dans ma bulle parce qu'effectivement, des fois, tu as des gens qui veulent te parler, qui veulent discuter, tu es en plein échauffement. Des fois, des gens qui viennent faire des photos ou autre. C'est jamais très facile. Donc, il faut quand même essayer de rester le plus possible concentré sur l'objectif de la course. Ouais.
On le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui font des marathons et qui ont des lièvres. Mmh. Est-ce que Johan, toi, t'as jamais été contacté par des équipes ou par une athlète qui disait, tu vas me faire tel 10 km à tel kilomètre heure ou autre?
Ça se
fait de plus en plus.
Ça se fait de plus en plus. Et moi, ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement maintenant avec la fin de ma carrière. C'est-à-dire que le problème de faire lièvre, c'est qu'en fait, tu cours pour les autres et tu cours plus pour toi et qu'il faut réussir à le caler dans une programmation d'entraînement qui peut être cohérente et qui va vraiment bien s'imbriquer dans tes objectifs de saison. Et donc, courir pour les autres, par contre, ça te met un stress. Parce que t'as pas le droit de te louper, c'est-à-dire que si tu te loupes sur une course que tu cours pour toi, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même et c'est pas grave. Mais si tu fais lièvre pour quelqu'un et que tu pars sur les mauvaises allures, que tu fais mal le job, que tu fais n'importe quoi, que tu fais du vite l'envite et que le mec explose, là c'est un peu de ta responsabilité s'il n'y a pas de performance derrière. Donc ça ajoute un stress supplémentaire, je m'en suis rendu compte. Après, je le fais.
Tu le fais souvent, du coup, le lièvre ?
Pas souvent, mais ça m'arrive de le faire 2-3 fois par an, ouais.
D'accord.
Des fois, c'est pour mon équipementier, justement, quand il veut battre des records ou autre, ça m'est arrivé de le faire souvent. Alors, pour les féminines, justement, parce que les féminines ont la chance, des fois, de pouvoir avoir des lièvres masculins. Et moi, ça me faisait une petite sortie tempo. Et ça permettait aux filles de battre des records de France ou autre. Donc, je l'ai fait souvent pour des filles ou pour des athlètes masculins. Mais il y a des athlètes qui ont un bon niveau régional, voire national, mais qui ne peuvent pas jouer devant dans les meilleurs Français et qui, pour des questions financières, préfèrent faire lièvre parce que c'est mieux payé que... Des fois, le lièvre, il va plus gagner que l'athlète qui gagne la course.
Moi, j'avais été surpris. C'était au marathon de Munich, je crois,
ouais.
Où c'est que, l'athlète, alors c'était... Je ne veux pas l'écorcher son nom, je ne sais pas qui c'était, mais il avait du coup ses lièvres. Ils étaient 5. Ouais. Mais en fait, il mettait une telle puissance, qu'au bout des 20 km... Les 5 lièvres avaient tous
avaient tous sauté. C'est au marathon de Berlin peut-être avec Kiptoum.
Marathon de Berlin, ouais,
quand Kiptoum avait voulu battre le record du monde.
Ouais. Et finalement, je crois qu'il le bat pas.
De quelques secondes, mais parce qu'il était parti trop vite. C'est dur de trouver des bons lièvres et le problème des fois les lièvres là avec Kiptoum ou avec Kipchoge, la vraie difficulté c'est de trouver des lièvres de son niveau capable de l'amener jusqu'au 30-35 sur marathon. C'est vraiment là que ça compte et c'est sûr que c'est pas évident à trouver.
Pour toi, au niveau national, au niveau départemental et aussi au niveau de la région, c'est quoi les pépites là, qui arrivent ?
Bah, bonne question. Alors en demi-fond, bon, on a eu toute la génération de Jimmy Gressier qui a explosé avec bon, Jimmy qui a été champion du monde du 10 000 mètres. On a Étienne Daguinos qui avait battu le record d'Europe et le record de France du 10 km. On a pas mal d'athlètes comme ça. Et après, il y a des jeunes coureurs qui sont pas mal. Après, au niveau local, bah, ceux qu'il faut que je peux mettre en avant, c'est bien évidemment Anna Delahaye qui fait de la marche athlétique, qui est coachée à Bergerac, qui est originaire de Bergerac, qui vit à Bergerac, mais qui est licenciée à Bordeaux aujourd'hui, mais qui est un vrai potentiel pour 2028, qui a fait vice-championne d'Europe espoir en marche cette année, qui a fait troisième des championnats de France élite en battant des filles qui étaient aux Jeux Olympiques de Paris. Donc il y a un vrai potentiel pour Los Angeles. Et après, à Bergerac, toujours entraîné par Christophe Lenocher au bac, il y a Manon Agostini qui a gagné dimanche la course senior devant Julia Paduche. Qui pareil, voilà, un niveau très 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 correct au niveau national, qui avait fait championne de France du 5 km il y a quelques années, voilà, qui doit confirmer maintenant, elle va arriver chez les seniors, donc c'est là où c'est la marche est souvent dure, donc voilà, faut s'accrocher. Voilà, c'est les petites jeunes, je pense, qui dans le département seront amenées à faire briller les couleurs de la Dordogne, ouais.
Alors, parle-nous un petit peu de cette... Tu nous parles, tu disais que tu as 40 ans, tu es déjà en pleine reconversion. Aujourd'hui, tu es du coup aussi coach. Tu veux, du coup, tu as créé My Running Club.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Est-ce que Exactement. Tu peux nous en dire plus là-dessus ?
Bah ouais, du coup, c'est vrai que effectivement, je sens que je commence à être un peu sur la fin et donc il faut commencer à préparer l'après-carrière. Et après, bah, c'est quelque chose qui m'est un peu aussi tombé dessus sans que je le recherche. C'est-à-dire que il y a eu les Jeux Olympiques à Paris, l'engouement pour les Jeux Olympiques, le comité d'organisation des JO qui avait lancé un marathon olympique ouvert au grand public. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que le grand public pouvait courir le marathon des Jeux Olympiques comme les champions, mais le soir, après les champions. Et donc, il y avait 20 000 dossards offerts comme ça pour le marathon pour tous. Et je me suis rendu compte, enfin, j'ai été un peu basculé via mes sponsors, un peu comme l'égérie du truc. J'avais été invité avec Tony Estanguet pour la conférence de presse de cet événement-là. J'ai été coach du Team Orange Running pour entraîner des VIP pour ce marathon-là. On a coaché Ophélie Meunier, beaucoup de VIP. Et donc, du coup, je me suis dit, effectivement, c'était des dossards qui étaient à gagner sur des jeux concours sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais ces gens-là, en fait, ils ne sont pas du tout licenciés en club. C'est les néo-pratiquants qu'on voit pratiquer, qui ont commencé la course à pied après le Covid, quand on était tous enfermés, et qu'aujourd'hui se retrouvent à vouloir courir. Et je me suis dit, ces gens-là, ils ne vont jamais pousser la porte d'un club parce que ça fait peur, parce que voilà, le club, ça fait un peu élitiste, parce que en plus il y a des contraintes horaires, enfin ils ont tout un tas de raisons à pas pousser les portes d'un club. Il y a 12 millions de pratiquants qui disent pratiquer le running deux fois par semaine, et il y a à peine 300 000 licenciés sur 12 millions de coureurs. Il y a 300 000 licenciés à la fédé d'athlètes. Donc je me suis dit, bah, il faut ces gens là faut pas les laisser dans la nature, il faut un peu les coacher et les accompagner pour pas qu'ils fassent n'importe quoi, parce que le problème, c'est que je les voyais faire un peu tout et n'importe quoi. Donc du coup, j'ai monté ma structure de coaching. Je me suis entouré de très bons coachs. J'ai 14 coachs à l'heure actuelle qui font du plan d'entraînement qui est adapté, qui est sur mesure en fonction des objectifs de chaque athlète. Et moi, je coordonne tout ça, je surveille un peu tout ça. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, parce que depuis que je fais de la route, autant quand j'étais pistard, j'étais ultra focus sur moi-même et je trouvais que j'aimais pas trop me disperser et donner de conseils ou quoi que ce soit. J'étais vraiment avec des œillères ultra fermées. Et depuis que je suis venu sur la route et depuis qu'il y a eu cet engouement pour la course à pied, j'adore échanger, donner du conseil. Je trouve que voilà, ça fait partie un peu de parce que les gens, voilà, il faut pas les laisser faire n'importe quoi. Et donc j'adore, ouais, j'adore faire ça, ouais.
Alors, c'est piloté avec l'application RunRZ.
Alors RunRZ, c'est une autre application, elle, qui justement te permet de courir, enfin de trouver des parcours en fonction du lieu où tu te trouves. C'est-à-dire que nous, pareil, on est parti du constat, un commercial qui arrive dans une ville, un néo-pratiquant qui ne connaît pas sa région, ou quelqu'un qui veut changer un peu ses habitudes de parcours. Nous, avec l'application, on est capable de te générer 5 parcours sur mesure en fonction de ce que tu vas rentrer, la distance et le type de chemin sur lequel tu veux courir. Si tu veux courir que sur la route ou sur le chemin, tu lances l'application et en 2 secondes, tu as 5 parcours qui te sont générés. Tu sélectionnes celui avec le que tu préfères, celui qui a le moins...
La distance et autres.
Bah, tu rentres la distance et nous, on te sélectionne les parcours. Et après, tu sélectionnes avec, en fonction du dénivelé, de là où tu veux passer, de ce que tu veux faire. Tu lances ton parcours et après, tu es guidé par un GPS audio et visuel sur le téléphone. Un GPS, soit tu mets les AirPods et dans ces cas-là, tu es guidé audio ou alors après avec le téléphone. Et donc là, on t'accompagne sur ta sortie. On te permet de ne pas te perdre, de faire une boucle que certainement tu n'aurais jamais fait, de découvrir la région si tu es en vacances, de t'accompagner bah, dans une ville si tu es un commercial et que tu pars de ton hôtel pour gagner du temps. Et effectivement, je trouve voilà, c'est une application qui marche bien. On a 500 000 téléchargements et parce qu'il y a cette demande, alors on fait de la course, de la marche ou du vélo. Tu peux aussi le faire en vélo. Tu sélectionnes 80 bornes de vélo, tu le lances et lui il te génère ton parcours. Maintenant, tu peux en plus l'exporter directement sur ta montre si tu veux pas courir avec ton téléphone ou sur ton compteur vélo si tu veux pas avoir le téléphone avec toi. Et donc ça permet de pas te perdre. Il y a aussi un volet sécurité, si t'es une nana et que tu cours dans Paris, un bouton SOS, et si t'arrives le moins de problème, clac, tu appuies sur le bouton SOS, ça envoie un message à la personne de confiance que t'as renseignée au moment de l'inscription. Ça lui dit voilà, telle personne est localisée à tel endroit, elle a un problème, clac, essaye de prendre contact avec elle. Donc voilà, il y a ce côté où je veux aussi accompagner les gens. C'est là où je me suis rendu compte que moi, je préférais accompagner du débutant plutôt que du d'élitiste. À aucun moment, ça m'a... Enfin, peut-être plus tard, mais pour l'instant, je ne me vois pas travailler avec l'équipe de France, rester dans le haut niveau et tout ça. Je préfère accompagner du débutant qui veut démarrer en lui proposant des parcours via l'application Runners, en lui proposant du coaching via My Running Club, en lui proposant du conseil via les podcasts que je fais avec RMC, plutôt que pour l'instant être entraîneur en équipe de France avec des athlètes de haut niveau qui veulent participer au jeu, parce que c'est pas le même stress, c'est de nouveau des contraintes de déplacement et tout, que pour l'instant j'ai pas encore envie de m'infliger. Je dis pas que je voudrais pas le faire, mais pour l'instant c'est pas quelque chose qui me plaît.
Il te plaît, ouais. Il y a une question du coup qui arrive d'Alison. Elle dit qu'est-ce qui est mieux de faire, une coupure estivale ou alors faire des repos réguliers et pas s'arrêter?
Ah, ça dépend de ton profil. C'est vrai que c'est une bonne question. Malgré tout, le repos dans sa saison, il est super important. Il faut à minima se reposer 3 voire 4 semaines chaque année dans une grande période. Et après, de temps en temps, suivant ses objectifs, moi souvent je dis dans une saison, il faut 2 gros objectifs qui sont tes objectifs majeurs. Et après, tu as des objectifs intermédiaires, des compétitions comme ça qui vont te servir de jauge ou pas. Et des fois, après ces objectifs majeurs, par exemple un marathon, bah derrière, tu es obligé de couper 15 jours pour régénérer l'organisme, pour se régénérer mentalement et pour repartir. Donc, je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut une coupure annuelle où là, tu pars en vacances et où pendant 3 semaines, tu coupes totalement et tu régénères l'organisme. Et une coupure de temps en temps dans la saison après des objectifs qui sont plus ou moins importants pour régénérer également, mais par contre un petit peu moins long. Tu vois, tu fais 5 jours de coupure ou tu fais vraiment 3 jours off et après tu fais vélo, natation et ça t'amène au 5e jour et tu reprends la course à pied. Et là où il faut être intelligent, c'est aussi savoir couper quand tu as de la fatigue, de la surfatigue, un peu des syndromes de surentraînement ou une blessure qui commence à arriver, d'aller sur des sports totalement différents. Ça, c'est quand même un conseil ultra important pour quelqu'un qui pratique la course à pied parce qu'effectivement, c'est un sport traumatisant. Et donc, aller faire du vélo ou de la natation pour garder ce côté cardio sans avoir les contraintes des chocs, c'est pas mal, ouais.
C'est quelque chose qui est important. Nous, on le voit, la Demi-Heure Sport est l'une des missions la plus écoutée en podcast dans le coin. Du coup, toi, bravo. Tu le fais. Non, toi, tu le fais, du coup, avec, du coup, RMC. Mm. RMC, du coup, Running. Mm. Comment c'est venu, cette approche avec RMC?
Bah, c'est Benoît Boutron, le journaliste d'RMC, avec qui je travaille sur RMC Running, qui est venu me voir après un événement que j'avais fait sur Paris, et qui m'a dit, voilà, écoute, à RMC, on a un podcast qui s'appelle RMC Running, qui avait été lancé par Gilbert Bribois et Mehdi Bala, et qui a été mis en sommeil depuis quelques mois. Et il me dit, moi, j'aimerais le reprendre, et j'ai besoin d'un consultant running qui viendrait quotidiennement avec moi, et pour parler de l'athlète, du running et tout. On est en plein essor, j'ai envie de relancer ça et tout. Donc je lui ai dit, bah, avec plaisir, écoute, tu peux compter sur moi. Enfin, c'était quelque chose qui me plaisait, parce que pendant le confinement, je m'étais vraiment posé la question de lancer moi-même mon propre podcast.
Tu m'avais contacté.
Ouais, je voulais, je me demandais comment on achetait du matériel, qu'est-ce qu'il fallait et tout. Et donc là, bah, ça a été encore plus simple, parce que Benoît m'a directement contacté. Donc ouais. Au début, il m'a vendu un truc, c'était 20-30 minutes une fois par semaine, et aujourd'hui on est à une heure de podcast trois fois par semaine. Donc parce que ça a grandi, parce qu'on fait de plus en plus d'émissions, parce que ça marche de plus en plus, parce qu'on fait de plus en plus d'opérations, et donc c'est un truc que je kiffe faire.
Et aussi, je pense, le plus dingue, c'est qu'aujourd'hui la personne qui va courir, qui va au boulot, qui va, en fait, c'est comme ça que le podcast est consommé.
Ah, c'est ça, ouais.
Donc pendant l'entraînement, en fait, on peut écouter, du coup, les techniques d'entraînement, ça, ouais, de Yoann.
Ouais, et nous, voilà, notre format, il dure entre 45 minutes et une heure, donc pile une sortie running. Donc effectivement, ça correspond bien, et puis on est dans le conseil, on est dans la bienveillance, et puis on essaye de il y a un ton RMC, donc c'est vraiment pas prise de tête, c'est assez simpliste, on rentre pas dans des données scientifiques où les mecs te perdent un peu en te parlant de VO2 max et de trucs. On essaye quand même de vulgariser pour que ça soit accessible à tous, et en particulier aux débutants, ouais.
Bon, il est 19h54, on arrive déjà à la fin de l'émission. Yoann, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, s'il y a des choses à rappeler, c'est ta minute pour toi, c'est open bar.
Ah bah, merci. Non, bah, pour les coureurs, de continuer à prendre le plaisir, enfin, même pour tous les sportifs en vrai, parce que ça peut se répandre pour tout le monde. Prenez du plaisir dans la pratique, et je vous dis, quand vous prenez du plaisir, après, les objectifs, généralement, ils sont atteints, et ça doit être vraiment la philosophie numéro un, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Voilà, pourquoi je me suis lancé ce défi de marathon, pourquoi je me suis inscrit à telle course ou à la salle de sport ou autre. C'est trouver une routine, c'est parce que j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, où tout le monde a tout un tas de raisons, mais posez-vous le bon pourquoi, et une fois que vous avez votre pourquoi et que vous prenez du plaisir à le faire, bah, après c'est gagné. Et après, bah, des fois, ceux qui veulent faire de la compète se retrouvent à faire des perfs de dingue sans savoir pourquoi, quoi.
Et Yoann, surtout l'application aussi, et surtout, alors l'application, rappel de l'application.
Runners, RUNNRZ. Donc elle, c'est ce qui va vous permettre de vous géolocaliser et de vous proposer des parcours quand vous êtes dans une région que vous ne connaissez pas, ou si vous voulez changer de parcours chez vous.
Et si je veux être entraîné par Yoann Durand ?
MyRunningClub.fr, et donc vous vous inscrivez, il y a tout un tas de packs pour souscrire l'accompagnement que vous souhaitez. Tout un tas, suivant le nombre de visio que vous voulez avec l'entraîneur ou pas, l'adaptation du plan, enfin, il y a tout est là-dessus, tout est sur internet, ouais.
Il a été super séduisant, il nous a fait un beau discours. Merci à toi, Yoann.
Merci à vous pour l'invitation.
De rien, avec plaisir, on te dit à très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.